Chapitre 10. Sous l'influence de ces vives impressions, Robert marchait avec allégresse, tout en fulminant contre M. Dutilleul, qui le supposait capable d'oublier le respect dû à une femme. Mais un instant après, il convenait que, si Mlle de Sainte-Mélaine le croyait fiancé, elle avait nécessairement apprécié ses paroles comme une galanterie déplacée, en supposant qu'elle ne fût pas allée jusqu'à l'idée d'une déclaration. Dans ce dernier cas, que devait-elle penser? Cependant, il écarta le désir de s'expliquer le lendemain matin avec la jeune fille, n'admettant pas l'inconvenance de s'engager avant de causer avec son père. Ensuite, une résistance était possible de la part de M. Dautrel, et la situation vis-à-vis des Liorans ne laissait pas d'être embrouillée. Comment sortir d'un pareil gâchis? Se disait-il, furieux de son entraînement prématuré. Il marchait toujours, assez absorbé pour croiser M. Mauvrier sans l'apercevoir. Hé, Robert, tu ne me vois pas? À quoi penses-tu donc? Robert avait déjà décidé que lui seul déblairait le terrain, car il sentait assez vivement le ridicule de sa position. Je pense que je suis un fameux imbécile, dit-il avec conviction, mais après tout, un imbécile heureux. Quittons la grande route et suivons l'Indre, veux-tu? Ils traversèrent une prairie et prirent un sentier qui longeait la rivière. « Quelle belle soirée !» dit Robert d'un ton contenu. « Que j'aime vos nuits ! Vois les rayons argentés éclairer l'eau tranquille et se perdre sous le couvert des arbres. »« Oui, c'est joli !» répondit Philippe, qui avait le cœur trop oppressé pour jouir de la nature. « Ne crois-tu pas, Philippe, qu'entendre, au milieu de ce calme impressionnant, une musique imprégnée d'un sentiment élevé serait la plus savoureuse des jouissances ?»« Ton langage devient celui d'un amoureux, » répondit M. Mauvrier avec une gaieté forcée que remarqua Robert. « En général, ces transports pour la nature sont l'expression détournée d'une autre passion. »« Amoureux ? Amoureux de Mlle Le Lioran ?»« Naturellement !» Comment n'en serais-tu pas épris ? Dans le ton de M. Mauvrier, il y avait quelque chose qui fit tressaillir son ami. Quand tu m'as rencontré sur la route, je songeais précisément à l'amour récalcitrant. Cependant, je t'observe, et depuis quelques jours, j'ai vu des symptômes révélateurs. Quoi qu'il en soit, j'ai à t'apprendre que M. Le Lioran est venu chez moi pour me prier de te dire qu'il n'entendait pas que le doute se prolongeât plus longtemps. « Il a parfaitement raison, » répondit Robert d'un air distrait. Préoccupé d'un soupçon qui, rapproché de certaines confidences, grandissait et le troublait, il résolut d'être fin diplomate. « Tu connais énormément cette jeune fille, Philippe. Analyse ton opinion sur elle. Cette opinion me décidera. Tu affirmes qu'elle est charmante, évidemment. Je le vois bien moi-même. » Mais ce qualificatif n'exprime qu'une impression générale, par conséquent insuffisante. Mon Dieu, mon cher, tu m'embarrasses. En cette matière, il faut se fier à ses propres observations, et tu l'as vu assez pour être fixé. Mais enfin, si tu ne dois pas l'aimer comme elle le mérite de l'être, retire-toi, car elle est au-dessus d'un mariage de convenance. Analyse toujours, j'établirai après un parallèle entre ton opinion et la mienne. Il cachait son émoi sous un air indolent dont Philippe s'irritait, et ce fut sur un ton assez vif qu'il commença à parler de Jeanne enfant, de ses relations avec elle, mais quand il en vint à la femme, sa voix s'adoucit. L'enfant est devenu ce qu'elle promettait, c'est-à-dire le type féminin le plus aimable et le plus complet. Son intelligence est prompte, ouverte, mais sans prétention à imiter l'intelligence de l'homme. Sous un caractère facile et gai, sa sensibilité est développée. Est-elle une femme supérieure? Je ne sais, mais il y a en elle des trésors ignorés que saura mettre en valeur un mari aimant et clairvoyant. Suffoqué par l'émotion, Robert s'arrêta machinalement. Devant lui, sur l'autre rive de l'Indre, des hêtres, clairs plantés, étaient si bizarrement éclairés que leurs troncs, dont les branches avaient été coupées jusqu'à une grande hauteur, ressemblaient à des colonnes alignées. Leurs ombres allongées s'étendaient régulièrement dans la glissante lumière de la lune. L'effet singulier aurait, dans un autre moment, vivement frappé Robert, mais il regardait sans rien voir. Elle est jolie, très jolie, continuait Philippe. Cependant, combien de femmes sont plus belles? Mais quel charme dans ses manières franches et décidées qui, pour moi, ajoutent à sa grâce. Il attendait une réponse et le silence se prolongeait obstinément. Deux fois, M. Mauvrier interpella inutilement son ami. « Robert, réponds donc » dit-il une troisième fois en lui touchant le bras. « Répondre quoi ? N'es-tu pas de mon avis, au moins pour les qualités que tu as toi-même observées ?»« Je suis de ton avis, mes observations répondent absolument aux tiennes, et le portrait moral que tu as tracé à grands traits termine mes hésitations. Demain, j'écris à mon père d'arriver. » « Tu m'as dit cela trois fois, » dit Philippe en riant. « La quatrième est la bonne. Je suis décidé, archi-décidé. » « Je ne souhaitais pas un meilleur mari à Mademoiselle Le Lioran, » dit Philippe avec chaleur. « Et tu es amoureux, quoique pour je ne sais quel motif, tu veuilles dissimuler. »« Oui, je suis amoureux, » répondit Robert avec conviction. « J'en étais sûr. Pourquoi ne pas l'avouer ? Elle sera heureuse et mon amitié pour elle s'en réjouit. Heureuse, je le crois bien, elle ne pourrait pas découvrir un meilleur mari, plus épris, plus intelligent, plus généreux. La réponse stupéfia M. Mauvrier, Robert n'étant pas homme à se vanter, mais il attribua cette anomalie au sentiment nouveau qui agitait le fiancé de Mademoiselle Le Lioran. Très maître de lui, ne se doutant pas qu'une intonation avait suffi pour trahir son secret, Philippe prétexta un travail en retard pour entrer chez lui. En réalité, il voulait se mettre une dernière fois en face de sa douleur. Si le secours matériel lui était venu plus tôt, si, par là même, ses affaires avaient pris l'extension sur laquelle il comptait désormais, quelle vie différente se fût peut-être ouverte devant lui. Il savait Mademoiselle Le Lioran trop fine pour n'avoir rien deviné de son amour. Le silence de la jeune fille prouvait qu'elle appréciait la réserve de Philippe et la désirait. L'avenir s'était éclairci grâce à l'homme qui allait épouser Jeanne et une réserve plus complète que jamais s'imposait impérieusement. Monsieur Mauvrier n'aimait pas amollir son courage en s'appesantissant sur des regrets inutiles. Mais, malgré lui, l'image d'une femme charmante, d'enfant, redonnant la vie à sa vieille maison, le poursuivait pour le séduire et l'attrister. Elle ne devait pas, elle ne pouvait pas penser à un homme dont la ruine passait pour imminente. Son bonheur avec Robert est assuré, restons-en là. Il secoua sa tristesse et travailla jusqu'à 2 heures du matin. Robert, moins triste, mais beaucoup plus agité, songeait avec terreur qu'il avait été sur le point d'épouser la femme aimée par son ami. Quelle possession de lui-même ! Sa blessure saignait à toute heure grâce à la stupide invention de me faire épouser cette jeune fille. Et pas un geste, pas un mot ne l'avait trahi. « Ah, Philippe, elle t'aimera, il le faut !» Une marche rapide le calma. La campagne, idéalement éclairée, sentait bon. Des sillons montaient le cri strident d'insectes invisibles et, au loin, la voix sanglotante de l'orfraie rompait le grand silence. Robert rêvait sa vie et son rêve, rêve bien supérieur, selon lui, à la réalité d'un mariage assorti à sa position. Il ne savait plus si le visage aimé était laid ou joli, mais la flamme du sentiment animait un regard sérieux, un archer vibrant exprimé dans la douceur d'une belle nuit, la passion qui s'ignorait elle-même. Et il entendait résonner dans la nature un accord plein qui l'inondait d'une secrète ivresse. Mais, en rentrant chez lui, les embarras qu'il fallait dissiper l'assaillirent de la façon la plus désagréable. Il les regarda en face sans se laisser démonter et ne se coucha pas sans avoir dressé son plan. Le premier courrier, le lendemain, lui apporta une lettre de son père. « Comment veux-tu que je sois content de tes dispositions ? Je ne les connais pas. Quelles sont-elles ? Tu loues ou tu ne loues pas ? Tu parlais d'acheter et le château n'est plus à vendre. Je n'y comprends rien. Toutefois, je comprends que, à la place de M. Le Lioran, je te flanquerais à la porte. Tient-on ainsi les gens en suspens ? C'est inconvenant. Et si tu n'es pas décidé, pourquoi louer un château ? Que me fait sa vieille propriétaire ? Et comment la dame t'intéresse-t-elle au point de tomber dans le dithyrambe en parlant d'elle? Serais-tu amoureux d'une vieille femme? J'ai un fils bien étrange. » Robert expédia aussitôt la réponse. « Ne craignez rien, mon cher père, tout va bien. Je vous attends samedi prochain, si ce jour vous convient. » Dès le lendemain, ou le jour même, si bon vous semble, vous ferez la demande. Je vous ai obéi et suis blessé à la façon du duc d'Elbeuf. Mais moi, le bonheur m'attend et je n'écrirai pas sur les murs d'une prison des pensées mélancoliques pour inspirer, 100 ans plus tard, les ordres fougueux d'un père que j'adore. Venez vite, R.